Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 7 mars 2020. La barre des 100 000 contaminations au coronavirus a été franchie au niveau mondial. En 3 semaines seulement, le nombre de cas en Europe a été multiplié par 100. Attentat kamikaze à Tunis, un policier a été tué et 4 autres blessés par l'explosion d'une bombe juste en face de l'ambassade américaine. Et le processus de paix fragilisé en Afghanistan après une attaque revendiquée par l'État islamique visant la minorité Hazara de confession chiite qui a fait près de 30 morts. Et c'est toujours l'épidémie de coronavirus qui domine l'actualité internationale puisque le seuil des 100 000 cas a été franchi hier au niveau mondial. Plus de 3 300 personnes en sont mortes et plus de 80 pays sont désormais concernés. Le Vatican, la Serbie, le Pérou et le Cameroun viennent de signaler leur premier cas sur leur territoire. Alors face à cette épidémie qui semble extrêmement difficile à arrêter, l'Organisation mondiale de la santé rappelle que la priorité absolue, c'est de tout mettre en œuvre pour limiter la propagation du virus. On écoute le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus.
As cases increase, we are continuing to recommend that all countries make containment their highest priority. We continue to call on countries to find, test, isolate and care for every case and to trace every contact. Slowing down the epidemic saves lives and buys time for preparedness and for research and development.
Alors vous le savez, l'Australie n'est pour l'instant pas le pays le plus touché par le coronavirus. Il n'en est malgré tout pas totalement épargné. Le gouvernement fédéral estime d'ailleurs que la réponse sanitaire apportée par les autorités pourrait coûter 1 milliard de dollars. Face à l'ampleur du phénomène, le Premier ministre Scott Morrison a d'ailleurs annoncé qu'il acceptait que le gouvernement fédéral prenne à sa charge 50% des coûts de ces mesures, c'est-à-dire un peu plus que d'habitude, puisque traditionnellement, dans ce genre de situation, ce sont les États qui supportent la majorité des frais. On écoute le Premier ministre.
This arrangement, I should stress, that it relates to expenditure incurred from the 21st of January 2020. This is about dealing with the coronavirus and making sure that the states can have confidence that they're leaning forward and responding, that we're leaning forward and responding with them.
Et cette annonce a notamment été saluée par la première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, qui aurait quand même souhaité que ce coup de main fédéral intervienne un peu plus tôt.
I've been asking this since the end of January, that the Prime Minister should have convened a COAG meeting of all states and territories on the specific topic of coronavirus to ensure that our national response and our state responses are ready.
Et le défi posé par le coronavirus est autrement plus embêtant pour l'Union européenne. Au cours des 3 dernières semaines, le nombre de cas y a été multiplié par 100, d'après la Commission. Les 2/3 de ces cas se trouvant en Italie, où sont recensés plus de 5000 cas de contamination. Une situation inédite qui crée des tensions entre les États membres, certains en accusant d'autres, tels que la France, d'appliquer des mesures de protectionnisme. À Bruxelles, les explications de Pierre Benazet pour Radio France Internationale.
En 3 semaines, les cas de patients touchés ont été multipliés par 100 dans l'UE, selon la Commission européenne, pour atteindre plus de 5000 aujourd'hui et 159 morts. Les 2/3 concernent l'Italie, mais tous les pays ou presque sont désormais concernés. Dans ce contexte, certains pays accusent leurs voisins de protectionnisme, avec 3 pays, dont la France, l'Allemagne et la République tchèque, qui imposent certaines mesures pour restreindre l'exportation de matériel de protection. Maggie De Blocq, ministre belge de la Santé.
C'est pas le moment de prendre des mesures qui pourraient être contraire à la solidarité qu'on a parmi notre pays européen et que tous les pays ont besoin de matériel protectif pour protéger nos gens qui sont les soignants. Tous nos soignants, ils ont besoin, il y a une pénurie de matériel autour du monde, alors il faut travailler ensemble.
D'autres ont aussi instamment demandé à leurs partenaires européens de les informer des décisions prises unilatéralement au niveau national, comme par exemple les mesures de confinement. Et l'Allemagne a demandé que les pays hors UE, dont par exemple la Suisse, soient associés à ces réunions européennes de coordination face à un virus qui ne connaît pas de frontières. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et en France, les autorités n'ont pas encore activé le stade 3, mais de plus en plus de mesures de prévention sont mises en place. À partir de lundi, par exemple, toutes les écoles et les crèches vont être fermées dans les départements de l'Oise et du Haut-Rhin. Si une fermeture de toutes les écoles à travers le pays, telle que cela a été décidé en Italie, est pour l'instant écartée, le président Emmanuel Macron, lors d'une visite dans une maison de retraite située dans le 13e arrondissement de Paris, a lui exhorté la population à limiter autant que possible les visites dans ce type d'établissement. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration enregistrée par les micros de la radio Europe 1.
Je veux ici le dire, notre priorité, la priorité de la nation, est de protéger nos aînés. Durant cette épidémie, je sais que c'est parfois un crève-cœur, mais il faut au maximum éviter de visiter nos anciens. Essayez au maximum que les plus jeunes ne fassent pas partie de ces visites, parce que, comme on le sait aujourd'hui, ils transmettent beaucoup de virus. Et ensuite, c'est une organisation au sein des EHPAD qui sera respectée dans les prochaines semaines.
La peur et l'inquiétude en Tunisie, où un attentat a frappé la capitale, Tunis. Deux kamikazes se sont fait exploser juste en face de l'ambassade américaine, causant la mort d'un policier et en blessant quatre autres. On retrouve sur place le correspondant de RFI, Michel Picard.
Quelques minutes après la déflagration, la police s'est déployée en nombre et des travailleurs ont quitté leurs bureaux installés dans les immeubles récents du quartier pour se masser derrière des cordons de sécurité. Nabil, la vingtaine, faisait sa pause cigarette quand il a eu le souffle coupé par la puissance de la détonation.
Il y a eu une explosion. Le quartier, tout le quartier, il était bouclé après.
Ça vous fait peur ?
Pas du tout.
Un sentiment partagé par Mohamed Etarsi, costume-cravate, qui travaille dans une banque à quelques mètres.
Peur, non, j'ai pas eu peur. Non. Mais j'étais au bureau, j'ai entendu l'explosion et tout ça, et c'était un peu choquant.
L'attaque terroriste a visé, comme en juin dernier et comme en octobre 2018, à Tunis, les forces de police, dont un véhicule assurait la sécurité devant l'ambassade des États-Unis. Comme lors des précédentes attaques, aucune scène de panique ni de grande inquiétude face aux événements du jour. Les badauds semblaient résignés.
C'est une réaction plus ou moins normale parmi ces terroristes-là parce que ça fait un bon moment que l'état global de la sécurité en Tunisie, ça s'est bien calmé. Ils sont maintenant étouffés. C'est juste une petite réaction. Il n'y a pas quelque chose qui est inquiétant.
Cette attaque est venue rappeler aux habitants du quartier ce jour de septembre 2012 quand des manifestants ont attaqué cette même ambassade américaine. Quatre personnes étaient mortes dans des affrontements. Michel Picard, Tunis RFI.
Aux Pays-Bas, un rendez-vous judiciaire important lundi prochain puisque s'ouvrira le procès des quatre hommes suspectés d'avoir fait exploser le vol MH17 avec un missile alors qu'ils survolaient l'Ukraine. 298 personnes sont mortes dans cette attaque, parmi lesquelles 38 Australiens. Des mandats d'arrêt avaient été émis l'an dernier par les autorités hollandaises à l'encontre de trois citoyens russes et d'un Ukrainien. Et à peine signé, le processus de paix en Afghanistan est déjà menacé. Vendredi, l'État islamique a revendiqué une attaque à Kaboul visant un rassemblement politique de la communauté Hazara de confession chiite. Une semaine seulement après la signature à Doha d'un accord de paix entre les Américains et les talibans. Alors comment interpréter cette attaque ? On va passer la parole à Gilles Doncevaux, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, pour y voir plus clair.
Le message, il est double. Premièrement, l'État islamique n'est pas prêt à participer à une quelconque négociation. Donc l'État islamique, c'est la ligne révolutionnaire dure. Ce sont des ennemis à la fois des talibans, du gouvernement afghan et des Américains. Donc il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de transaction, il n'y aura rien avec l'État islamique. L'État islamique est sur une ligne de durcissement. Et l'attentat vise probablement à faire savoir que malgré leur revers militaire considérables de ces derniers mois sont toujours dans le jeu politique, enfin surtout dans le jeu militaire, et que de toute façon, ils continuent à garder une ligne très antichiite. Et donc, ils font des attentats, ils vont faire d'autres attentats très probablement. En fait, les États-Unis ont signé un accord avec les talibans qui ne recouvre véritablement que le retrait américain. Donc il y a une remontée assez générale des tensions, des attaques des talibans contre le gouvernement afghan, à la fois des attaques de l'État islamique, donc contre des forces politiques afghanes. Donc on voit bien qu'en fait, l'accord passé avec les Américains, c'est plutôt le début d'une nouvelle phase de la guerre civile plutôt qu'un processus de paix qui s'enclenche.
Allez, on jette maintenant un œil à la météo de ce samedi. Il y a des nuages dans le ciel de Melbourne où le thermomètre stagne autour de 20 degrés. Des nuages aussi à Perth où il fait 28 degrés. Il fait beau en revanche à Adélaïde avec 25 degrés. Quelques averses sur Hobart mais aussi Canberra et Sydney où en termes de température, elles s'échelonnent de 15 à 24 degrés. Il fait un peu plus chaud à Brisbane avec 30 degrés et ça monte même jusqu'à 33 degrés à Darwin où en plus de la pluie, on s'attend à de fortes rafales de vent dans la journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.